Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et en ce tout dernier week-end, eh bien, avant Noël, nous parlerons tout d'abord des sapins. Ils s'en vont auprès de 6 millions chaque fin d'année en France. La plupart ont d'ailleurs été cultivés dans notre pays. Et pour connaître l'état de santé de la filière tricolore du sapin de Noël, mon premier invité est Frédéric Naudet. Il dirige les pépinières Naudet dans le Morvan, mais aussi l'association qui regroupe 135 producteurs français de sapins de Noël. Deuxième invité, toujours dans l'esprit de Noël, Charles Huette, le fondateur de la carte française. La carte française, depuis 3 ans, ce sont des cartes cadeaux et des coffrets cadeaux qui permettent d'acheter des produits made in France. Et en plus, désormais, la carte française permet d'acheter directement en ligne des produits tricolores. Enfin, nous vous proposerons quelques premières images du tout premier hors-série de La France a tout pour réussir qui sera diffusé ce week-end sur BFM Business. Ça s'appelle Les Hauts-de-France ont tout pour réussir, une émission spéciale au cours de laquelle nous ferons un tour d'horizon des projets qui sont en train de transformer la région grâce notamment au soutien financier de l'Europe. Mais tout d'abord, mon beau sapin, on le sait, c'est le roi des forêts, mais est-il aussi le roi des forêts françaises? Eh bien, on va en parler avec Frédéric Naudet, qui est à la tête des pépinières Naudet dans le Morvan, précisément à Leuglet, en Côte d'Or, un des principaux producteurs de sapins de Noël en France. Et je précise, bonjour monsieur Naudet, est-ce que vous m'entendez bien?
Bonjour, oui, je vous entends très bien.
Que vous êtes aussi le président de l'association qui regroupe la plupart des producteurs français de sapins de Noël. Un mot d'abord sur le marché, si on se base sur 2021, dernier chiffre en notre possession, 2022 n'est pas terminé. C'est quoi l'état du marché des ventes des sapins de Noël en France?
Écoutez, c'est 6 millions de sapins, vous l'avez dit très bien, et parce que cette année, on devrait être en France à peu près similaire. Les ventes sont en train de se faire, les producteurs ont vendu à la distribution est en train de faire son métier, qui est de vendre les sapins aux consommateurs. Bon, on craint peut-être un léger repli par rapport à l'année dernière, dû à une situation économique tout de même un peu difficile, mais bon, on attend les dernières semaines parce qu'il y a des décalages de ventes. Je pense que les consommateurs ont été un peu prudents sur les dates d'achat, mais on est sur des tendances qui devraient tout de même être très différente de 2021.
Alors je précise une chose, Frédéric Naudet, on a un problème de liaison donc par Skype avec la Côte d'Or. La Côte d'Or et Paris, c'est un peu loin parfois, donc on va continuer notre conversation par téléphone. Vous me parliez il y a quelques instants de 6 millions environ de ventes de sapins de Noël, ce sont bien les naturels. Le chiffre global, c'est 6 millions 6 pour 2021, ce qui veut dire que l'artificiel finalement ne prend pas tant de parts de marché que cela, à peine plus de 10%. Vous me confirmez ces chiffres?
Oui, oui, je vous confirme absolument que l'artificiel reste cantonné à ses 10%. On espère même cette année qu'il va régresser, compte tenu de l'augmentation des prix particulièrement élevés, à notre avis, de l'artificiel par rapport au naturel. Voilà, c'est notre souhait en tous les cas.
Parce que les chiffres, voilà, des prix, vous les évoquiez. Je crois qu'on est en moyenne, alors je ne sais pas si mes chiffres sont complètement à date, au-delà de 31€ pour un naturel et plus de 45€ pour un artificiel sont les prix moyens constatés.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on sera un petit peu plus sur un naturel. On était à 30€ l'année dernière en prix moyen. On devrait être plutôt cette année sur 32-33€ en prix moyen. L'artificiel est quand même beaucoup plus cher, même si on le garde plus longtemps et plusieurs années de suite. Mais enfin, voilà, ça va être les tendances de prix cette année. C'est les tendances qu'on observe cette année.
Alors, on en vient donc à l'association que vous présidez, l'association qui regroupe plus de 130 producteurs français. Est-ce que tous les producteurs français arrivent à satisfaire cette demande dont on parlait d'environ 6 millions de sapins de Noël naturels chaque année en France?
Non, on sait que aujourd'hui, 80% des sapins, environ 80% des sapins naturels vendus en France proviennent de cultures françaises et environ 20% sont importés des pays européens qui sont traditionnellement nos fournisseurs, c'est-à-dire globalement le Danemark et la Belgique. Donc on n'est pas tout à fait autosuffisant, et ça fait un petit moment que ça dure. Donc on essaye d'augmenter la production de nos producteurs en France, mais bon, ça prend du temps parce qu'il faut environ une dizaine d'années, entre 5 et 10 ans pour produire un sapin de Noël. Donc tout ça se fait pas du jour au lendemain.
Alors la production donc en France, environ 5 millions si j'ai bien compris, essentiellement dans le Morvan. Vous êtes une entreprise historique, je crois que vous allez bientôt fêter dans 3-4 ans vos 150 ans d'existence, les pépinières Naudet, célèbres dans le Morvan, mais il y a aussi des producteurs en Bretagne. Ce sont et le Morvan et la Bretagne, les deux régions qui produisent le plus?
Absolument, il y a un bassin de production historique dans le Morvan, c'est la première région productrice de sapins. Ensuite, on a la Bretagne qui est aussi la deuxième région productrice de sapins de Noël. Ensuite, on a la région Rhône-Alpes qui, elle aussi, produit pas mal de sapins. Puis ensuite, toutes les régions en France produisent un petit peu de sapins, puisque la production de sapins est tout de même une production de proximité. Ne l'oublions pas, toutes les régions ont donc des producteurs qui approvisionnent les marchés des principales villes de France.
Quels sont les enjeux pour la filière que vous représentez? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'enjeux des méthodes de production, mais aussi des méthodes in fine de recyclage? Est-ce que ce sont des thématiques qui n'existaient peut-être pas trop il y a quelques années et que vous voyez monter en puissance dans votre filière?
Ah oui, les enjeux ils sont importants pour nous, parce qu'on a beaucoup de détracteurs, beaucoup de gens voudraient nous coller des étiquettes qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas les bonnes en tous les cas, et c'est important pour nous de dire et de faire savoir que nos productions sont vertueuses, nos productions sont agricoles, elles sont pas forestières. On n'a pas le même métier. Hein, nous travaillons sur des terrains agricoles, donc on veut parfois nous assimiler à des défricheurs ou à des destructeurs de forêt. Donc déjà, il faut continuer de le faire savoir. La thématique du recyclage, elle aussi, est importante, mais ça fait bien longtemps que les collectivités s'en sont emparées. Les particuliers aussi, donc une très très grande majorité des sapins qui sont vendus sont recyclés par les collectivités, et c'est tant mieux, c'est très important de savoir que après la fête, il y a une dernière opération qui consiste à recycler les sapins, et ça c'est vraiment vital pour notre profession. Donc ça, tout le monde doit le savoir, et ça c'est organisé à la fois pour le broyage des sapins ou la transformation en combustible pour les chaudières collectives. Donc ça c'est quelque chose qui existe, et entendre comme on l'entend régulièrement des diatribes sur nous et sur notre culture est quelque chose qui nous fait très mal. Alors il faut savoir que la tradition très forte du sapin de Noël qui accompagne ces événements familiaux, ces fêtes de fin d'année, c'est quelque chose auquel les Français sont très attachés, et on comprend pas toujours pourquoi certains écolos ou pseudo-écolo voudrait un peu détruire cette tradition.
Et un mot enfin en termes d'emploi. On parle beaucoup d'économie bien sûr sur notre chaîne, et c'est tout à fait normal. La filière des sapins de Noël, c'est combien d'emplois permanents et combien de saisonniers?
Écoutez, c'est plus de 1000 emplois permanents en tous les cas, et c'est des milliers d'emplois saisonniers directs ou indirects. C'est toute une filière qui travaille avec ses producteurs, et je crois que c'est très important de le faire savoir, parce que ces emplois ils sont localisés dans des régions rurales où on est bien sûr très content d'avoir ces producteurs qui sont là et qui font vivre des familles dans des villages. Et je crois que c'est très important de le savoir. Donc économiquement, c'est une filière importante qui est dynamique, qui se remet en question et qui fait évoluer beaucoup ses méthodes.
Eh bien, c'est sur ce message positif, et on soutient évidemment la filière française des sapins de Noël, comme toutes les filières françaises dans cette émission, La France a tout pour réussir. Merci beaucoup Frédéric Naudet, bonne fête de fin d'année à vous et à toutes vos équipes.
C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année à toutes vos équipes aussi.
Eh bien, merci beaucoup. Et on reparlera de Noël dans quelques instants. Mais tout d'abord, quelques bonnes nouvelles du côté des entreprises en ce mois de décembre. On commence par Carmat, notre champion français du cœur artificiel, qui termine bien mieux l'année qu'il ne l'avait commencé. Il y a un an, en effet, la production avait dû être arrêtée suite à des problèmes de qualité des composants. Tout cela est réglé. La commercialisation des cœurs, il y a quelques jours, Carmat a annoncé une levée de fonds de 31 millions d'euros après celle de 41 millions au printemps dernier. Stéphane Pia, le directeur général de Carmat, était l'invité de Good Morning Business à l'occasion de cette levée qui va permettre d'augmenter la production sur le site de Bois d'Arcy dans les Yvelines.
Notre intention, c'est de redémarrer la production maintenant. On a déjà fait un patient il y a 2-3 semaines. On espère en faire un ces jours-ci. On est en train de voir s'il se stabilise. Et justement, cette levée express, comme elle est appelée, c'est pour doubler la production. Donc, dès janvier, grâce à ces 31 millions, on va pouvoir... on a loué le bâtiment à côté d'une autre actuellement.
Vous êtes où déjà ?
On est à Bois d'Arcy. Ouais. Et on va doubler la superficie de production pour pouvoir anticiper une demande qui est forte.
Donc là, c'est vraiment de l'usine. Enfin, c'est de la
production. Tout à fait. C'est de l'industrialisation. Ouais. C'est pour ça que ça rend dans le cœur des investissements.
Allez, deuxième lame.
Et donc, non, mais c'est pas une lame, c'est une incitation à me supporter dans des moments difficiles. Et donc, donc là, on espère reprendre vraiment de manière forte. Donc, on avait été obligé, bien sûr, de couper les fournitures. Donc là, on est en train de remonter en cadence très lentement. Malheureusement, on a beaucoup de patients qui attendent. Ah oui. Enfin, c'est la bonne nouvelle pour nous, c'est la mauvaise nouvelle pour eux. Et on pense avoir une très forte année l'an prochain. Et surtout à partir du deuxième trimestre où la production va augmenter, on sera à plus de 10 par mois.
Dans 5 ans, vous espérez vendre combien de corps artificiels par an ?
Alors, ça, on ne l'a pas trop donné, mais dans 5 ans, on espère être ce qu'on appelle le break-even, en profit. Donc, grosso modo, si vous regardez les notes des analystes, on n'en est pas trop loin, on espère être vers 1000 cœurs par an.
Vous dites nous soutenir dans les moments difficiles, parce que c'est ça l'histoire du Carmat, c'est quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de up and down.
Mais c'est pas Carmat, c'est l'innovation. Moi, vous savez, j'ai publié un papier avec le président de la Société Européenne de Cardiologie il y a 8 ans, Barriers to Innovation. Déjà, il y a 8 ans, ouais, les réglementations qui devenaient folles.
Anti-innovation, c'est ça que vous dites,
Les
réglementations.
Bien sûr, la perfection n'existe pas, c'est ce que j'ai publié sur LinkedIn hier. La perfection, c'est l'ennemi du bien. À vouloir trop faire, on n'aura plus d'innovation. Réglementation trop compliquée, qui ne changeront pas la donne, parce qu'on n'anticipera pas les problèmes qu'on a eus dans le passé, parce que plus de réglementation, ça n'aide pas forcément. Et la réglementation, ça rend les choses plus difficiles, donc forcément, les investisseurs ont peur. Donc, c'est pas Carmat, c'est les investisseurs en santé. Et c'est ce que je dis, notre chère tête blonde qui travaille dans les banques d'investissement, si leurs parents ont la chance d'avoir des stents et des valves, c'est parce que leurs parents qui travaillent dans les fonds d'investissement, ils investissent dans la santé. Donc, c'est très bien d'investir dans la tech, c'est super. Moi, j'ai un iPhone, j'ai plein d'Apple à la maison. Mais c'est important d'avoir la santé, parce que si on veut être traité, les têtes blondes, quand elles auront 60 ans, elles seront contentes d'avoir des produits à l'hôpital.
Voilà, le message est clair aux faiseurs de réglementation. Arrêtez de casser les pieds à ceux qui essaient d'innover en France. On reste dans le domaine médical avec Epure qui vient de lever un peu plus de 1,2 million d'euros. Epure, c'est une start-up créée il y a 2 ans seulement dans la région de Lille et qui a développé un système de freinage pour les fauteuils roulants. Colin Gallois, le cofondateur d'Epure, était l'invité de Sandra Gandouin dans 60 minutes business.
Notre système de freinage, en fait, il est intégré dans une paire de roues. Tout simplement parce qu'une paire de roues, c'est très facile à désinstaller et à réinstaller sur un fauteuil. Donc notre produit, c'est cette paire de roues. On a deux adaptateurs qui nous permettent d'être compatibles avec la grande majorité des fauteuils manuels. On est à peu près à 90% aujourd'hui des fauteuils compatibles. Et donc ça permet d'être très facilement installable, soit sur un fauteuil qui est déjà utilisé par un utilisateur et qui voudrait installer notre paire de roues, soit sur un fauteuil roulant neuf. L'objectif va bien entendu je dirais assez rapidement de travailler avec les fabricants pour que le produit soit facilement accessible.
Être une part
aujourd'hui,
de leur process.
On achète, alors une part de leur process peut-être pas, en tout cas pas tout de suite. Oui. L'idée c'est que l'achat d'un fauteuil roulant aujourd'hui se fait chez un revendeur de dispositifs médicaux, un petit peu l'équivalent du marchand de vélo, où on va acheter son vélo. Aujourd'hui, il y a des magasins dans lesquels on peut acheter des fauteuils roulants et où les fabricants viennent livrer les fauteuils. Et le plus simple pour nous, ça serait dans le futur que notre paire de roues soit directement disponible sur la fiche d'options comme un accessoire du fauteuil. D'accord. Et c'est à ce titre qu'on a des discussions avec les fauteuils roulants. Aujourd'hui, on a lancé une première précommande d'une centaine de paires de roues. La moitié, on l'a réservée directement à des clients particuliers parce qu'on avait vraiment à cœur de vendre directement aux utilisateurs de fauteuils et d'avoir leur retour. Mais nos clients, à partir du début de l'année prochaine, c'est bien les revendeurs, donc aujourd'hui les acteurs qui vendent les fauteuils roulants dont j'ai parlé il y a quelques secondes.
Vous avez créé Epure en 2020, il n'y a pas très longtemps. Vous êtes près de Lille, à Loss, à Eurasanté. Où sont fabriquées les roues Drift ?
Alors aujourd'hui, on a un partenariat entre un partenaire industriel qui usine toute la partie centrale, donc c'est vraiment le centre de la roue. Si on suit les rayons jusqu'au milieu, on arrive sur ce moyeu qui intègre la technologie de freinage. Mm-hmm. Donc ça aujourd'hui, c'est réalisé en région bordelaise. Et une fois que le système est réalisé à Bordeaux, ensuite on achemine la technologie et les composants standards, les rayons, les jantes, etc. Juste à côté de notre bureau, à Lille, au sein d'une usine de vélo. L'usine de vélo du groupe Decathlon, dans laquelle on vient réaliser le produit fini, la paire de roues, et la mettre en packaging, ensuite l'expédier.
Quel est le prix de ces roues aujourd'hui? Est-ce qu'un jour, elles vont être remboursées par la Sécurité sociale?
Alors aujourd'hui, on commercialise notre paire de roues à 1990 euros, en tout cas c'est le prix public. Cette paire de roues est pour l'instant pas prise en charge par la Sécurité sociale.
Mais c'est l'objectif.
Simplement, alors nous, on va y travailler, on va tout faire pour. Aujourd'hui, système de freinage n'existe pas dans la nomenclature de la Sécurité sociale, tout simplement parce qu'on est le premier système de freinage au monde. Ouais. Donc il va falloir créer cette ligne, et pour ça, on doit réaliser une étude clinique. Ça fait partie aujourd'hui des choses qu'on a à cœur de financer et pouvoir démontrer les bienfaits de notre solution d'un point de vue clinique, les bienfaits, les bénéfices pour les patients.
Et comme promis, à présent, on revient à Noël avec King Jouet. King Jouet, c'est le numéro 1 de la distribution en France en magasin. Le groupe Isérois, créé en 1988, possède désormais 330 magasins. Après le passage sous son enseigne des 90 enseignes Maxi Toys, repris en 2020. Alors Philippe Guédon, le PDG de King Jouet, était il y a quelques jours l'invité de Good Evening Business spécial Noël, enregistré dans un centre commercial près de Lyon. Guillaume Paul l'a interrogé sur la part de marché du Made in France, justement sur le marché des jeux et des jouets.
Il y a beaucoup de Made in France dans le jouet. On parle relocalisation aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de Made in France dans le jouet en France et chez vous notamment?
Pas assez, bien sûr que pas assez. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le jouet JOUR, c'est-à-dire que lorsque c'est fabriqué ou créé en France, c'est 15%.
15%.
Chez King Jouet, on est plutôt à 18-19. On pousse, c'est notre intérêt. On est une enseigne française, on a intérêt à pousser le jouet français. Enfin, il y a une évidente collusion entre les deux. Enfin, collusion dans le bon sens du terme entre les deux. Ça grimpe. Ouais. Le point positif, c'est que si on le regarde en dynamique, le jouet français JOUR, en 2-3 ans, voilà. Puis on a quand même des belles boîtes en France, dans le Jura, il y a Smoby qui est un peu une boîte iconique. On a des fabricants de jeux de société. Il y en a une à Montpellier qui s'appelle Bioviva, un créateur de Pulse, qui est dans la Drôme, là aussi à quelques kilomètres des Centosphères. Les parents, oui, les gens qui vont en magasin, et dans nos magasins, ils peuvent trouver du jouet français. Donc s'ils ont cette intention d'acheter français, ils le prouvent. Et puis il y a des nouvelles créations. Là j'ai amené produit d'une entreprise qui s'appelle Le Jouet Simple. Ouais. C'est un jouet premier âge, mais pas seulement ça. C'est un produit qui est avec uniquement du plastique recyclé. Voilà, et puis il y a un principe qui est sympa, c'est qu'en fait il y a une consigne, c'est-à-dire que ce jouet-là, une fois que votre enfant en a assez, bon, c'est les jouets premier âge, donc on va dire vers 12-18 mois, il jouera plus avec ce jouet, vous pouvez le renvoyer à l'entreprise et il vous rembourse la consigne. C'est des choses simples. Bon, collusion avec le nom, là aussi. Mais voilà, ça fonctionne et ça montre qu'il y a une autre façon de voir les choses aussi à côté fabriqué dans le Jura.
Voilà, même pour les jeux et pour les jouets, on peut acheter français. Voilà qui devrait vous réjouir. Bonjour Charles Huette.
Bonjour.
En tant que cofondateur de la carte française, rappelez-nous tout d'abord ce qu'est la carte française.
Écoutez, la carte française, c'est la première carte cadeau multi-enseigne dépensable qu'en Made in France. Donc c'est une carte cadeau qu'on charge du montant qu'on veut et qu'on offre à ses proches ou à ses collègues et qu'ils ne peuvent dépenser que dans des boutiques physiques ou en ligne qui nous garantissent que plus des trois quarts des produits au catalogue sont fabriqués en France. Donc c'est l'occasion d'offrir en un cadeau 200 000 produits Made in France.
Et donc c'est une carte que l'on offre de particulier à particulier, mais il y a aussi les cartes via les comités d'entreprise aussi. Est-ce que c'est un marché qui se porte bien, celui-ci?
Alors, c'est notre principal marché, nous, le marché des CSE, des comités d'entreprise, qui chaque année organisent des arbres de Noël et gratifient leurs collègues de pouvoir d'achat qu'on transforme avec la carte française en pouvoir d'emploi. Parce qu'on propose du coup à ces élus syndicaux de relocaliser les budgets dont ils disposent et donc d'offrir, plutôt qu'une carte généraliste qui sera dépensée dans des grandes enseignes multinationales, et bien de leur offrir de découvrir tout le Made in France et de générer à chaque euro dépensé 10 fois plus d'emplois en France, 2 fois moins de carbone en dépensant leur carte cadeau dans nos 500 boutiques en ligne partenaires ou 800 boutiques physiques de tout secteur.
Alors on est à une semaine de Noël, est-ce que les cartes françaises se distribuent bien? Est-ce que vous êtes satisfait du bilan de cette fin 2022?
Alors l'année 2022 n'est pas simple parce que le contexte inflationniste énergétique renchérit le coût du Made in France et appauvrit un petit petit peu le consommateur. Donc il est autant pendant le Covid, il cherchait beaucoup à relocaliser. En ce moment, il cherche beaucoup à du prix. Et c'est l'image prix du Made in France, à tort ou à raison, n'est pas forcément très positive. On va essayer de maintenir nos scores des années précédentes. Mais pour l'instant, en 3 ans, on a vendu pour 3 millions d'euros de cartes cadeaux à plus de 60 000 bénéficiaires via plus de 300 CSE, dont la moitié du CAC 40.
Quels sont les cadeaux que privilégient ceux à qui on offre les cartes? Ils vont vers quoi? Ils vont vers du textile? Ils vont vers quel type de produits? Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus?
Alors, on suit ça de près et on constate que la gastronomie, l'alimentaire marche très fort, forcément. La mode aussi. Et puis, on a une prime aussi à la notoriété des marques et à leur réseau de boutiques physiques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est ravis cette année d'avoir, entre autres, amélioration de la carte française, enrichi notre réseau de belles enseignes comme Yves Rocher, comme Deezer, comme La Camif, comme Quo Vadis. Et puis, avec notre nouvelle boutique en ligne, beaucoup des produits Made in France, des marques Seb, Tefal, Moulinex, De Vialès, Moby, Villac et beaucoup d'autres. Et donc, effectivement, naturellement, c'est ces marques plus connues qui attirent les bénéficiaires. Mais c'est aussi comme ça qu'on arrive à les vendre au comité d'entreprise. Derrière, beaucoup de bénéficiaires aussi en profitent pour découvrir des pépites méconnues et vers lesquelles on est très fiers.
Lesquelles, par exemple, quelques-unes qui vous viennent à l'esprit?
La tout récente Française des Jouets, mais au Poiscaille qui gagnerait être plus connue et qui livre partout en France le fruit de la pêche de nos pêcheurs français. Fleur d'ici, on parlait du jouet simple ou des mini-mondes, par exemple. Les marques Made in France, il y en a pour... Là, récemment, moi, mon coup de cœur, c'est les sneakers, les baskets de Royal Mare qui fabrique de très beaux pulls.
Qui fait des pulls aussi. C'est peut-être un de ceux-là, d'ailleurs.
Alors, ça, c'est le Minor, juste à côté en Bretagne, dans le Morbihan. Mais Royal Mare fait de très beaux pulls marins et a lancé la Knit One, une super basket magnifique, qui est plus belle pour moi que les Nike, de très loin, et qui est fabriquée dans le Grand Ouest aussi.
Alors, vous le disiez, donc, une nouveauté, c'est la boutique en ligne. Ça veut dire que sans passer par la carte cadeau, sans passer par cette dématérialisation, on peut directement aller commander sur les sites partenaires. Combien de marques font partie de votre boutique en ligne?
Alors aujourd'hui, on recense sur notre boutique en ligne les 2-3 best-sellers de chacune de nos marques. On y a aujourd'hui du coup une sélection courte à dessin des 700 produits iconiques du Made in France de tout secteur. Et effectivement, c'est nous un premier virage qui nous permet de nous adresser plus largement au grand public, aux particuliers, qu'il ait reçu une carte française pour avoir une utilisation très simple de cette carte cadeau ou qu'il n'en ait pas et avec sa carte personnelle, il va pouvoir retrouver tout le meilleur du Made in France réuni pour lui. Et nous, on a vocation à pas se cantonner à la carte cadeau. On a commencé par la carte cadeau pour flécher vers le Made in France des volumes d'affaires importants. Mais demain, on va être la plateforme de référence du Made in France et peut-être l'Amazon du Made in France.
Et votre modèle économique pour être l'Amazon du Made in France, comment vous rémunérez sur les ventes éventuelles? Comment ça se passe de ce point de vue-là?
C'est très simple. Il n'y a pas de frais d'entrée pour nos enseignes. Il n'y a pas de frais techniques. On leur prend simplement une commission d'apport d'affaires à la transformation d'une carte cadeau ou d'une carte bancaire sur notre site ou sur leur site à eux.
Combien à peu près?
On est sur une moyenne de 17% aujourd'hui et qui varie en fonction en fonction du niveau de marge de chacune de nos enseignes. Donc nous, le but, c'est simplement d'être pour elles une solution d'acquisition client sans risque, puisqu'elles n'ont rien à dépenser au départ, et de notoriété qualifiée Made in France. Et puis on leur propose aussi nous de porter la parole du Made in France et de les intégrer dans un écosystème avec lequel ils sont très à l'aise, puisqu'ils sont entourés que de marques qui partagent les mêmes valeurs de relocalisation et de réindustrialisation en France.
Quand vous avez lancé la carte française, il y a trois ans, voilà. Vous étiez au début d'un mouvement, c'est vrai qu'on sentait même dans cette émission, en faveur du Made in France. On rappelle qu'évidemment, derrière ça, il y a un modèle économique, social à défendre. Est-ce que vous imaginiez que ça prendrait une telle ampleur? Évidemment, la crise Covid est passée par là, les coûts de transport, il y a plein de choses qui sont allées dans ce sens-là. Est-ce que vous diriez que c'est un phénomène maintenant inéluctable et inexorable qui s'est mis en place?
Je pense depuis le début, depuis 10 ans, moi, que je consacre ma vie au sujet, que c'est inéluctable et que ça a vocation à suivre le chemin du bio, par exemple. En revanche, notre gros enjeu, et là où nous, on alerte tout le monde, c'est la différence entre les paroles et les actes. C'est que le Made in France, effectivement, on en parle beaucoup. Il y a
toute une génération d'entrepreneurs qui s'y lance à corps perdu et avec beaucoup d'engagement. Maintenant, il suffit pas d'en parler, il faut l'acheter. Et nous, c'est ce fossé entre les paroles et les actes qu'on se propose de combler via les budgets cadeaux que vous pour vos proches ou un comité d'entreprise pour ses salariés les subventionnent la découverte de toutes ces pépites méconnues du Made in France et le passage à l'acte parce que il ne suffit pas d'en parler. On sent un mouvement, mais comme beaucoup de sujets, on va dire engagés,
il faut que ça se concrétise.
On constate que les habitudes prix, fast fashion, grand import, ont la vie dure et sont très résistantes. Et il va falloir continuer le travail.
Un mot, il nous reste 10 secondes vraiment. On est à une semaine de Noël. On peut encore acheter, offrir des cartes françaises.
Tout à fait. On peut la carte française en version dématérialisée est reçue dans sa boîte mail ou celui de nos proches en quelques secondes. Donc vous pouvez offrir en toute dernière minute tout le Made in France à vos proches.
Message est passé à ceux qui sont en retard pour leur cadeau de Noël. Merci Charles Huet d'avoir été notre invité. Et avant de refermer cette émission, un rendez-vous, le premier hors-série de La France a tout pour réussir. Ça s'appelle Les Hauts-de-France ont tout pour réussir. Une émission de 52 minutes que nous avons réalisée cette semaine dans la région Hauts-de-France. Notamment, vous le voyez sur ces différentes images dans l'ancien centre minier d'Arambert qui a été réhabilité en un espace dédié à l'image et aux médias numériques. On va écouter Aymeric Robin. C'est le président de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, nous parler justement de la transformation de ce site d'Arambert.
L'idée, c'est d'être entre la mine charbon et la mine image. Et donc, il y a eu cette transition que les acteurs du territoire ont souhaité de faire que ce site minier, grâce à l'héritage que nous a laissé le film de Claude Berry, lui aussi Germinal, de faire en sorte que ce site avait quand même une vocation à être tourné vers l'audiovisuel, vers l'image. Mais au-delà de cette niche, de cette pépite, je pense qu'ici, nous sommes au cœur d'une vraie ruche. Il y a plusieurs potentialités à développer, de garder ces deux ADN, finalement, l'ADN du patrimoine, cette cathédrale industrielle faite de briques, d'acier, de verre, mais aussi cet aspect technologique, audiovisuel, pour en décliner les possibilités autour du tourisme et autour de l'ouverture vers le monde.
Et dans ce hors-série, nous faisons un tour d'horizon donc des grands projets qui sont en train de transformer la région Hauts-de-France grâce notamment à l'appui financier de l'Europe, que ce soit le canal Seine-Nord-Europe dont on voit quelques images, mais aussi la vallée de la batterie électrique et bien d'autres projets. C'est donc à découvrir dès ce samedi à 19h sur BFM Business, en télé, en radio et bien sûr surtout nos supports digitaux. Enfin, pour terminer cette émission, comment bien évidemment ne pas souhaiter le succès de notre équipe de France en finale de la Coupe du Monde de football. Cette émission a été enregistrée vendredi, donc on ne connaît pas le résultat, mais on espère vivement une troisième étoile pour nos Bleus. Ils la méritent et en plus, comme l'a souligné Emmanuel Le Chypre ce matin sur notre antenne, une victoire de nos footballeurs, ça ne pourrait être que bon pour la croissance. C'est donc sur la musique de Gala, Fruit from Desire, et bien que l'on souhaite bonne chance aux Bleus. On se retrouve la semaine prochaine, le week-end de Noël. Ce sera la toute dernière émission inédite 2022 de La France a tout pour réussir. Très bonne fête de fin d'année et à très vite sur BFM Business et allez les Bleus.
BFM Business, La France a tout pour réussir.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290 euros par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000 euros suivi de 36 loyers de 290 euros réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.